Bonsoir. Vous allez bien? Bon, je vous vois attentif, très attentif. On va ouvrir la parole, bien sûr. Pour une première lecture, dans 1 Timothée, au chapitre 2 et au verset 1, avez-vous à cœur de voir des âmes être sauvées, de voir des âmes rentrer dans ce lieu, être touchées, convaincues de péché, et puis ressortir heureux parce qu'ils auraient été pardonnés de leurs péchés. Ils auraient reçu le pardon de leurs péchés. Est-ce que vous voulez le voir? Vous en avez envie? Vous avez envie de voir des gens qui sont tristes repartir joyeux? Vous avez envie de voir des vies transformées? Moi, je l'ai à cœur. J'en ai envie et je crois que Dieu le veut aussi. On va le lire et il va nous le confirmer par sa parole. Donc, 1 Timothée chapitre 2 et verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On fait une deuxième lecture, dernière avant, après quoi on priera. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, on relit ce verset 16 et on y ajoute le 17. Ce verset 16 qu'on connaît bien, pour ceux qui y viennent, pour ceux qui lisent la Bible. Il est dit ceci dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. » Prions quelques instants. Seigneur, nous voulons vraiment ouvrir nos cœurs ce soir, croyant que tu es ici et que tu veux nous parler. Tu veux déposer une semence ce soir dans notre cœur. Tu veux qu'elle pousse, qu'elle porte du fruit, Seigneur, que nous soyons vraiment cette terre, Seigneur, dont tu parles dans les évangiles, qui est honnête, qui est d'un cœur honnête, qui veut vraiment savoir ce que tu dis, qui a envie, qui a soif de connaître la vérité, Seigneur, afin que nous puissions la recevoir de toi et que tout ce que tu as prévu qui se passe dans notre vie, que nous fassions aussi, puisse s'accomplir. Merci, mon Dieu, parce que tu veux sauver le monde, tu veux sauver tous les hommes et nous voulons participer à cela. Que ton nom soit béni pour ce que tu vas faire encore ce soir et les prochains jours. Amen. Amen. Nous avons lu dans ces deux textes que Dieu veut sauver le monde, que Dieu a envoyé Jésus, non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Dieu a à cœur, Dieu veut vraiment que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que vous le croyez? Vous croyez que ce que Dieu dit, ce que la Bible dit, c'est Dieu qui parle et que c'est vrai? Waouh. Vous le croyez, c'est important. C'est important. Est-ce que quand on lit la Bible, on réalise que c'est Dieu qui parle? Même s'il a dû inspirer un auteur, c'est quand même Dieu qui parle. C'est important. Et Dieu veut sauver tous les hommes, tous ceux qui sont prêts à croire en lui. Et pour cela, la clé nous est donnée. Comment Dieu veut-il sauver les hommes? Comment va-t-il s'y prendre? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment Dieu va s'y prendre? La clé, la solution pour que Dieu sauve les hommes, pour que Jésus puisse venir dans tous les cœurs, pour que Jésus puisse agir, elle a été donnée par un pharisien. Ça vous étonne? Mais elle est encore dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 11 et verset 48. Comment Dieu veut-il s'y prendre pour sauver les hommes? Jean 11, 48 dit ceci. Alors, il y a ces juifs, ces pharisiens qui sont là, qui veulent s'emparer de Jésus. Et il y en a un, il explique pourquoi. Il dit, si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et il parle de Jésus. Il dit, voilà, vous pouvez, on s'arrête là dans la lecture. Ce pharisien dit ceci, c'est que s'il laissait faire Jésus, S'il le laissait faire, tous les miracles, tout ce qu'il était en train de faire à l'époque, le message qu'il donnait, le fait qu'il reprenait les religieux, le fait qu'il disait véritablement que c'était pas ça que Dieu voulait, ce qu'ils enseignaient, que c'était pas une religion que Dieu voulait que le monde ait, ça gênait. Et il dit ceci, si on laisse Jésus faire, tous croiront en lui. Et la clé, elle est là. Dans notre vie, nous qui voyons voir, qui voulons voir les autres, nos frères dans la chair, nos sœurs dans la chair, notre famille, nos conjoints, nos conjointes, nos parents, nos voisins, notre patron, qui veut que son patron se convertisse? Je crois que le premier, on est tous à vouloir un patron converti, il sera plus agréable. Qui veut que ses employés soient convertis? Tout patron converti, il le veut aussi. Il veut que tous soient convertis parce qu'on sait que c'est le meilleur qui puisse arriver à un homme, de se convertir, de recevoir le pardon de ses péchés, d'être sauvé. Et la solution, elle est là, c'est de laisser faire Jésus. Et nous qui voulons voir notre entourage, nos amis, nos proches, les hommes autour de nous sauvés, on n'a qu'une chose à faire, c'est laisser faire Jésus. Quand on prend les rênes de notre vie, on ne mène pas les gens à Dieu. Peut-être qu'ils rentreront dans une église si on les force et qu'on ne les laisse pas être attirés par l'amour de Jésus qui se manifeste par notre vie, par le Saint-Esprit en nous. Si on force les gens, si on force nos enfants, si on force nos parents, notre entourage à se convertir ou à jouer les chrétiens, si on force les gens à entrer, si on est là, on pousse les gens, on frappe avec la Bible sur les gens à coups de verset, si on force les choses, ou qu'on veut faire les choses par nous-mêmes, avec des techniques, des moyens qu'on va bien, qui nous sont adaptés, on n'amènera personne à Christ. Peut-être qu'ils viendront à l'église. Peut-être qu'ils vont faire une expérience avec Jésus. Peut-être qu'un jour, ils se feront baptiser. Mais au final, ils vont être dans l'église, mais ils ne se convertiront jamais véritablement. C'est des gens qui vont rentrer, qui vont venir et qui vont dire, voilà, moi je suis converti, mais qui en réalité n'auront jamais comme roi Jésus-Christ dans leur vie. C'est des gens qui n'auront pas volontairement accepté Jésus dans leur vie. Combien de jeunes enfants vont à l'école du dimanche parce que les parents, bien sûr, et c'est bon quand même d'encourager, d'emmener les enfants à l'école du dimanche. Moi, je le pense, les parents l'ont fait avec moi et c'est bon. Mais quelquefois, on va plus loin que ça, que les encourager. Quelquefois, on va plus loin que leur présenter l'évangile. Et je me souviens d'avoir vu quelques enfants où les parents disaient, voilà, il faut que tu pries. Mais l'enfant, il n'est pas converti. Au début, il aimait Jésus, il suivait les parents, mais au bout d'un moment, il ne veut plus. Il dit, si, il faut que tu pries. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as lu ta Bible? Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? Et au bout d'un moment, l'enfant, il dit, ok, je vais obéir. Mais le jour où il est en âge, à 18 ans, légal de dire ce qu'il veut, ben il part. Le jour où il est adolescent et où il arrive à montrer un peu plus son caractère, où on arrive un peu moins à lui imposer les choses, il va partir. Il va abandonner l'église. Je ne parle pas des murs. Il va abandonner simplement ce qu'on lui présentait. Il ne va pas en vouloir. Il va le rejeter. Et il va être fâché. Il va partir. Nous devons vraiment croire que Jésus seul, en le laissant faire simplement dans notre vie, ça va amener les gens au Seigneur. La seule chose qu'on a à faire, c'est grandir dans notre communion avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec son Saint-Esprit en nous. Dans Actes 2:45, il est dit que le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui avaient cru. On le lit, Actes 2:47. Et le Seigneur, au milieu du verset, ajoutait chaque jour ceux qui était sauvé. Qui c'est qui a ajouté à l'église? Le pasteur? Les gens? Nous? Est-ce que c'est nous qui ajoutons? Moi, je crois que quand c'est le Seigneur qui ajoute, il se trompe pas. Il ajoute ceux qui sont sauvés. Et des fois, dans des églises, on se retrouve avec des gens, ils sont toujours bornés. Ils disent, mais moi, ça fait 50 ans dans l'église, que je suis dans l'église. Mais ça fait peut-être 50 ans qu'ils font que des problèmes. Parce qu'ils n'ont pas compris véritablement, ils n'ont pas été touchés par l'amour de Jésus, par le Seigneur. Ils ont été amenés par des réflexions, des raisonnements humains. Il faut vraiment qu'on laisse le Seigneur agir. Cela ne veut pas dire non plus qu'on n'a rien à faire, qu'on ne doit rien faire nous-mêmes. Laisser le Seigneur Jésus faire, si on le laisse faire, tous croire en lui, ça ne veut pas dire que nous, on n'a rien à faire, on reste tranquille, on se repose et puis on ne fait rien du tout. C'est pas ça. Mais j'aimerais juste dire, résumer ce que je viens de dire en une phrase. Dieu n'a pas besoin de nous pour sauver les hommes. Ce que je dis, peut-être ça vous choque, mais Dieu n'a pas besoin de nous. Il a besoin de Jésus en nous pour sauver les hommes. Il a besoin du Saint-Esprit en nous pour se servir de nous pour sauver les hommes. Mais il n'a pas besoin de nous, de notre humanité, de nos faiblesses. Il n'a pas besoin de notre misère. Il a besoin de Jésus en nous. Et si Jésus est en nous, bien sûr qu'il va nous utiliser. Il va faire quelque chose avec nous. Il va nous pousser à lui obéir. Il va nous dire et nous faire connaître sa volonté. L'une des plus grandes difficultés pour le croyant, c'est pas de faire des choses difficiles. Parce que quand on a du zèle, quand on aime Dieu, on est prêt à faire toutes sortes de choses pour Dieu. Des fois, le plus dur pour un croyant, c'est de rester calme et d'attendre la volonté de Dieu. Pourtant, Dieu ne nous demande pas de faire des choses qu'il ne nous a pas dites. Des fois, nous nous embarquons dans des engagements, dans des responsabilités, dans des activités que Dieu ne nous demande pas, que Dieu ne nous a jamais demandé. Et on va partir dans des choses que Dieu ne nous a pas demandées. Et je crois qu'on a le parfait exemple, Jésus, toujours le même. Jésus, est-ce qu'il n'a pas passé 40 jours dans le désert? Au moment où il s'est engagé, le baptisé dans le Saint-Esprit, il a reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe pendant 40 jours? Il va dans le désert. Pourtant, on pourrait dire, mais ça y est, Jésus, il commence son ministère. Ça y est, Jésus est rempli, revêtu du Saint-Esprit. Jésus a l'âge qu'il faut, il est baptisé, il peut servir Dieu. Ça y est, il a tout ce qu'il faut. Première chose, quelqu'un dira, il va perdre son temps 40 jours dans le désert. 40 jours gâchés, on pourrait croire. Est-ce que vous croyez que ces 40 jours ont été gâchés? Pas du tout, pas du tout. Je crois que Jésus a racheté le temps. Mais on voit que quand on se convertit, quand on offre notre cœur au Seigneur, quand on rencontre le Seigneur, il est bon d'attendre en silence à reconnaître la voix de Dieu. Il est bon de passer du temps au lieu de s'engager. Quand on est sauvé, pardonné de nos péchés, il y a une joie qui déborde, on a un feu et on fait plein de choses et des fois on fait plein de choses mauvaises. On casse la tête à nos voisins, on embête tout le monde et des fois on est maladroit, on manque de sagesse. Jésus, lui qui était parfaitement efficace, lui il était prêt, nous a montré le parfait exemple. Pendant 40 jours, il va passer du temps à résister au diable. Il va apprendre à la maîtrise de soi, bien qu'il la connaissait, mais ça nous montre qu'il y a besoin d'un temps, une école. Il y a une partie de l'école de Dieu qui se fait dans l'attente, peut-être dans le désert, dans l'épreuve. Puisque 40, c'est le chiffre de l'épreuve dans la Bible. Dans l'épreuve. Et souvent, quand on est là, on se fait baptiser, on s'engage avec le Seigneur, on décide, allez, j'obéis à Dieu, on se lance dans les eaux du baptême, et puis d'un coup, oh, mais je ressens plus la paix de Dieu. Je ressens plus Dieu dans mon cœur. Ou alors, il m'est arrivé telle catastrophe. Depuis que je me suis converti, depuis que je me suis mis avec le Seigneur, il m'est arrivé telle chose, telle catastrophe. Je pensais qu'avec le Seigneur, si je m'engageais avec lui, il avait promis d'être là avec moi tous les jours, et qu'il n'y aurait plus de difficultés. Alors que c'est tout l'inverse. Ça commence par la première des écoles, peut-être l'épreuve. Et pendant 40 jours, Jésus, il va rester dans le désert. Et moi, je crois que la parole de Dieu, on va le lire encore, nous l'enseigne, c'est qu'il nous faut d'abord, avant de chercher à servir Dieu dans des activités, dans toutes sortes de choses, il nous faut apprendre à passer du temps avec Dieu, dans l'intimité, là où ça ne se voit pas. Peut-être avez-vous cherché de suite à vous engager, à vous investir dans quelque chose, dans toutes sortes de choses. Moi, je crois que le Seigneur, il nous donne de la sagesse. Il dit, apprends d'abord à reconnaître ma voix quand je te parle. Fortifie-toi, enracine-toi dans la parole de Dieu pour pouvoir résister au diable. On va aller plus loin. Ne rien faire. On pense à Saül. Hein? Il est là, il attend pour le sacrifice, pour faire l'office, et puis le prophète Samuel n'arrive pas. Et il se prend, il dit, allez, on perd du temps, je vais le faire moi. C'est ce qui lui a coûté quand même la place sur le trône. Hein. Il a voulu faire quelque chose que Dieu ne lui a pas demandé. Et il a payé. Non, des fois, l'école de Dieu, ça commence par ne rien faire. Et on culpabilise. Vous êtes comme moi? Quand vous faites rien de visible ou de vraiment remarquable, vous culpabilisez pas des fois à dire « mais pff, je sers à rien ». Moi, je me souviens quand j'ai eu l'accident, que je suis retourné dans l'église, après je suis sorti, j'étais là, avant l'accident, j'étais engagé dans 6 ou 7 activités dans l'église. le ménage, je faisais toutes sortes de choses. La musique, les chants, toutes sortes de choses. Plein de choses. Le vidéo, etc. Quand j'ai eu l'accident, je ne pouvais plus me servir de mes deux bras, j'étais bandé. J'étais comme ça, alors je ne pouvais plus jouer de la musique. Je ne pouvais plus faire le ménage. Il y a plein de choses que je ne pouvais plus faire et j'étais là. Et puis, j'avais que le vidéoprojecteur. Vous savez, appuyer sur une touche, ça m'allait, c'était quelque chose que je pouvais faire. Mais je culpabilisais, je disais, oh, je ne peux rien faire. Et j'ai compris qu'aussi, c'était une école. Que Dieu voulait que je prenne du temps d'abord pour passer, apprendre à avoir une intimité avec lui, un culte personnel. Est-ce qu'on a son culte personnel? C'est important. Est-ce qu'on a tous les jours un moment d'intimité avec Dieu, avec le Seigneur? C'est très, très important. Oui, il faut d'abord s'enraciner dans la parole pour pouvoir résister aux assauts de l'adversaire le jour où il viendra nous tenter, nous éprouver. Tant que je ne suis pas enraciné, je ne peux pas aller au front. Ce n'est pas possible. Je risque de prendre ma volonté pour celle de Dieu. À Jéricho, ils avaient vécu une bonne expérience, une belle victoire. Dieu avait combattu pour eux. Et au début de notre conversion, le Seigneur il fait toutes sortes de choses à notre place. Ce n'est pas vrai? On est là, quand on s'approche du Seigneur, Dieu nous aide et pour nous encourager, on vit toutes sortes d'expériences. Et on croit que ça y est, ça va être comme ça tout le temps. Et comme à Jéricho, plus besoin de demander l'avis du Seigneur. On y va. Et puis à Haï, je ne sais pas comment on dit, voilà qu'ils ont une défaite. 36 morts plus une famille, parce qu'ils n'avaient pas demandé à Dieu. On croit souvent que le coupable, c'est cet homme qui a volé des trésors à Jéricho. Mais en amont, il y avait Josué qui devait demander à Dieu comment il devait y aller et s'il devait y aller. Il ne l'avait pas fait. Il n'avait pas pris de temps dans l'intimité avec Dieu. Très, très important. Dans Ézéchiel 28:6, il est dit ceci. « Tu as pris ma volonté pour ta volonté. » Que ce ne soit pas notre cas. Il faut simplement laisser Jésus nous diriger et nous conduire par l'Esprit. Que dois-je faire alors? Parce que c'est bien beau. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Et on reprend 1 Timothée. 1 Timothée. Comment Dieu veut-il sauver les hommes? Est-ce qu'il attend toutes sortes de personnes douées, avec des capacités extraordinaires, avec des talents extraordinaires? Est-ce que Dieu pioche dans les plus intelligents de ce monde? Est-ce qu'il choisit des hommes qui sont vraiment riches, qui ont des compétences financières? Est-ce que c'est ça que Dieu choisit? Est-ce que c'est ces personnes-là? Je ne crois pas. Quand on voit le choix qu'il a fait pour les apôtres, on se dit que ce n'est pas ce genre de personnes qu'il choisit. Vous savez qu'il y avait une école biblique à l'époque de Jésus, à Jérusalem? Il y avait une école biblique. Jésus n'a pas choisi des hommes qui sortaient de cette école-là. Il allait à Galilée, ce lieu qui était vraiment mal vu pour sa manière d'être. 1 Timothée, chapitre 4 et verset 16, il nous est dit ceci. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Paul, quand il a parlé à Timothée, il lui a pas dit, voilà, tu vas faire des nuits, des veillées de prière avec des chants, des stars de la musique qui vont venir, de la musique chrétienne et toutes sortes de concerts et tu vas pas organiser des scènes de théâtre et tu vas pas faire toutes sortes de choses. Paul, il n'a pas donné ce conseil à Timothée. Il lui a dit, veille sur toi-même. Première chose, je crois que nous-mêmes, on doit veiller sur nous-mêmes. C'est pourquoi il est bon d'abord. Il ne faut pas croire qu'on sauve les autres, qu'on va servir à sauver les autres en faisant toutes sortes d'efforts. Il faut d'abord simplement veiller sur soi-même. Et deuxième chose, veiller sur ce que Dieu nous a demandé. Parce que là, c'est l'enseignement, mais c'est particulier à Timothée. À vous, peut-être que Dieu va vous demander eh bien de la prière. Veille sur ce que Dieu t'a demandé. Peut-être que Dieu va vous dire, vous, toi, c'est la bibliothèque. Veille sur ce que tu fais à la bibliothèque. Peut-être que le Seigneur va dire, toi, je veux vraiment que tu t'investisses à la sono. Veille sur ta manière de sonoriser. Veille sur ton sérieux, à l'heure à laquelle tu arrives, à la manière dont tu fais les choses. Peut-être que quelqu'un d'autre, ça va chercher les mamies qui ne peuvent pas venir par elles-mêmes. Veille sur la manière dont tu le fais. N'y va pas en rechignant. N'y va pas en tirant la patte. N'y va pas, eh bien, en critiquant aussi dans la voiture. importe ce que Dieu va vous demander. Mais il est important d'attendre et de chercher ce que Dieu veut de chacun d'entre nous. On regarde bien plus en détail, de manière générale. Première chose, 1 Timothée 1,18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. On passe au chapitre 2. J'exhorte donc, voilà, il rentre dans l'explication. Qu'est-ce que c'est que le bon combat pour que les âmes soient sauvées? J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, on l'a lu tout à l'heure, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens en la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Première chose que l'apôtre dit, que Paul donne comme conseil et qu'il dit de répéter, c'est qu'il y ait de la prière. Que tous prient, pour tous les hommes, pour les autorités, pour tous. Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on a une vie de prière? Est-ce qu'on a cette vie de prière? C'est le premier des conseils qu'il donne pour que les hommes soient sauvés. On continue, il parle des femmes. Alors mesdames, voilà le conseil que Paul dit. Alors je le résume, vous pourrez le lire à la maison, ceux qui prennent des notes, du chapitre 2, versets 10 à 15. Les femmes, elles doivent être décentes, modestes, pudiques, elles doivent écouter en silence, elles doivent pas être excentriques. Quand c'est dit en silence, ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas sortir un mot de leur bouche, sinon on ne comprendrait pas quand l'apôtre dit que des femmes prophétisent dans l'église. C'est pas une question de se taire, de ne rien dire du tout, c'est une question de ne pas être excentrique. Je sais pas, il y a certaines cultures où ça fait beaucoup de bruit, que ce soit les hommes ou les femmes. L'apôtre, il dit dans l'assemblée, vraiment, ayez une attitude sobre, en silence, dans la soumission. Voilà. Ça, c'est ce que l'apôtre donne comme conseil. Il dit qu'elle persévère dans la foi, dans la charité. La charité, c'est pas l'amour passif, c'est un amour en action. Vous savez que la charité, c'est un amour qui s'exprime. Et en sainteté. Voilà, mesdames. Et vous lisez, vous pouvez compléter avec les détails. Pour les hommes, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'ils soient patients pour être formés. On le lit à la fin, au chapitre 3, au verset 6. Il ne faut pas qu'ils soient de nouveau convertis. Là, Paul va parler des évêques, des anciens. Mais il dit qu'il ne faut pas que ce soit des nouveaux convertis. Encore, il remet en avant le fait qu'il faut être patient. Quand on se convertit, il ne faut pas absolument de suite qu'on cherche des responsabilités dans l'assemblée. Que ce soit pour les diacres ou les anciens, c'est pareil. Paul donne un conseil et il dit, voilà, qu'ils soient éprouvés, qu'ils ne soient pas des nouveaux convertis. Bien sûr que pour l'Église, ça peut avoir des conséquences, mais même pour eux, parce qu'ils risquent de tomber dans les pièges du diable, dans l'orgueil. Voilà, quand on se convertit, pendant un temps, on doit être éprouvé. Et c'est pas marrant d'attendre, c'est pas marrant de patienter, mais c'est l'école de Dieu. Apprendre à connaître la parole, apprendre à connaître la voix de Dieu, quand il me parle, de la reconnaître. Apprendre à avoir une intimité avec Dieu, un culte, une prière. Ça, c'est ce que Dieu demande aux hommes, et il dit aussi qu'ils doivent ensuite aspirer, et c'est pareil pour les femmes, ils doivent aspirer une responsabilité dans l'assemblée. Et là, il parle des anciens, ou des évêques, et il parle des diacres. Les anciens, c'est le conseil d'anciens, c'est ceux qui vont être, c'est un groupe d'hommes, d'hommes, qui vont être conseillers spirituels. Ils vont agir dans un domaine spirituel. Ils vont être responsables du côté spirituel. Les anciens, c'est des gens sur qui on peut compter, qui connaissent la parole, qui s'enrichissent de la parole. Ils la connaissent et ils la vivent. Ils ont un bon témoignage des gens du dehors. Je ne veux pas vous relire tous les critères, c'est du chapitre 3, versets 1 à 16, mais il est dit ceci, que les hommes qui veulent être évêques aspirent à une bonne chose. a une œuvre excellente. Et est-ce qu'on ne doit pas avoir l'excellence pour Dieu, messieurs? Est-ce qu'on ne doit pas attendre à l'excellence pour le Seigneur? C'est pas ça que Dieu nous demande? Qu'on cherche l'excellence pour lui? Lui qui est excellent pour nous? Je le crois. Et il dit voilà que les hommes doivent chercher. Et jeune homme, les jeunes, on vous le dit, mais on vous le répète. Jeune homme, cherchez à être, à devenir des bons anciens, des piliers dans l'Église. Des hommes sur qui on pourra compter. Des hommes qui vont venir un peu avant l'heure pour voir s'il n'y a pas un besoin dans l'Église. Des hommes qui partiront un peu après l'heure pour accueillir les nouveaux qu'ils auront vus, pour prendre les numéros, pour vraiment, eh bien, encourager ceux qui arrivent. Voilà, aspirer à être des hommes, des pieux dans l'Église. Des jeunes hommes qui ne pensent pas qu'à eux-mêmes, qu'à leur réussite, mais qui déjà pensent aux besoins de l'Église, pensent aux âmes qui ont besoin d'être sauvées. Comment Dieu va sauver les hommes? Eh bien, en trouvant des hommes dociles entre ses mains, prêts à faire sa volonté. Des hommes qui laisseront Jésus agir en eux, qui se seront déjà concentrés sur le fait que Jésus doit être libre d'agir en eux. Juste avant, je parlais avec quelqu'un qui me disait, voilà, j'étais dans telle situation et je ne comprends pas, Dieu ne m'aide pas, etc. Mais cette personne n'écoutait pas Dieu. Ces personnes avaient une vie qui n'était pas conforme à ce que Dieu disait. Dieu lui avait déjà dit quelque chose. Ça, c'est pas conforme. Et il a persisté. Alors, est-ce que Dieu lui en veut, lui en voudra toujours? Je crois que Dieu est prêt à lui pardonner. Mais il faut décider que à partir de maintenant, aujourd'hui, c'est Dieu qui règne en moi. C'est Jésus qui décide, c'est plus moi. Un ancien, c'est saint. C'est quelqu'un qui spirituellement tient la route, qui connaît la parole, qui prend à cœur les choses du Seigneur. Un diacre ou une diaconesse, puisqu'il est parlé de diaconesse dans l'Église, donc ça concerne aussi les femmes, une responsabilité au niveau des femmes. Oui, si qu'elles soient chastes, qu'elles soient réservées, qu'elles soient restent en silence aussi, c'est vrai. Mais si jamais elles y aspirent aussi, elles peuvent devenir diaconesses. On a l'exemple de Lydie dans la parole. Diacre, c'est celui qui va être responsable des biens de l'Église, qui va gérer plus les biens, les comptes, les biens. Vous voyez ce que je veux dire? Plus au niveau matériel, qui va être responsable du matériel plus. Et chacun, on doit trouver notre place, peu importe. Mais tous, en tout cas, on doit aspirer à une charge. Et quand l'apôtre Paul dit, voilà, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est pas ainsi, bon voilà, il y en a que quelques-uns, mais c'est un appel. Quelqu'un veut-il? S'il y a quelqu'un qui veut, quand on fait cet appel, qu'il lève la main, si quelqu'un veut donner son cœur au Seigneur, qu'il lève la main, est-ce que c'est ainsi au hasard ou est-ce que c'est un appel? Je crois que l'apôtre Paul lance un appel. Si quelqu'un aspira, si quelqu'un veut, vraiment, il désire une œuvre excellente. Et c'est plus pour nous mettre un peu l'eau à la bouche qu'il dit ça. Il désire une œuvre excellente. L'apôtre Paul veut encourager. Il dit, voilà, il y a besoin d'hommes et de femmes qui s'investissent pour le Seigneur, qui s'investissent dans l'Assemblée pour qu'elle soit bien gérée, qu'il y ait de l'ordre. Et quand on regarde tous les critères, il n'a pas besoin d'hommes ou de femmes avec des grands biscottos ou des grandes capacités. Simplement des hommes et des femmes sobres, avec la maîtrise de soi, équilibrés, qui savent bien diriger d'abord la maison. Parce qu'on en revient toujours à ce que je dis depuis le début, c'est que d'abord ce qui intéresse Dieu, c'est notre intimité personnelle. J'aurais beau être impeccable devant les hommes, si dans mon intimité je ne vais pas bien avec le Seigneur, ça ne va pas aller. Le Seigneur ne pourra pas sauver des âmes et amener des âmes dans l'Église. Mais Dieu veut que dans l'Église, il y ait des hommes, des femmes qui s'investissent, qui prennent les choses au sérieux, qui se disciplinent pour le Seigneur. Et il y a comme un appel autour de cette parole qui dit que Dieu veut sauver tous les hommes. Il y a la prière, il y a la sobriété, l'intimité et juste après le service dans l'Église. Il y a ces choses qui se voient dans cet enseignement à Timothée. Oui. Quand il parle des hommes aussi irréprochables, ayant une seule femme, sobre, modérée, réglée, ça veut dire équilibrée dans leur conduite, hospitalier, capable d'enseigner, pacifique, désintéressé, qui dirige bien sa propre maison, je l'ai dit juste avant. Tout ça, il le précise, sans qu'on soit de jeunes convertis. Donc il y a un moment où on doit se préparer, un moment de préparation. Et moi qui passe par un moment de probatoire, je peux vous dire que c'est pas drôle. Parce que vous avez vos pensées. Vous avez envie de faire vos idées. Vous savez, vous avez quelque chose à cœur. Comme quelqu'un dans une maison, il va mettre les meubles à un tel endroit et l'autre, il va le mettre à un autre endroit. C'est la même maison, c'est les mêmes meubles. C'est pas grave l'endroit où on les met. Mais simplement parce qu'on est différent. Et Dieu nous donne des choses différentes, un ministère différent. Et alors là, quand j'étais à Draguignan, c'est pareil. Moi, je voyais des choses et je pensais à autre chose. Et ici, pareil, il y a des petites choses auxquelles je pense. Mais on doit apprendre à dire non, c'est pas toi qui fais. Tu es un responsable au-dessus de toi. Et ça, c'est une très, très bonne école. Parce que si j'apprends à me soumettre, je vais avoir une autorité plus tard. Et j'ai besoin de faire des progrès. Priez pour moi. Tout ça en conservant le mystère dans la foi, dans une conscience pure. Ce qu'on doit travailler, ce sur quoi on doit veiller, c'est notre conscience. Qu'elle reste toujours pure. Encore une fois, c'est dans l'invisible. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui se sait lavé de ses péchés. On ne se fait pas baptiser pour être lavé de nos péchés. On se fait baptiser parce qu'on est devenu disciple. On se sait lavé de nos péchés. On a déjà une bonne conscience devant Dieu. Alors on s'engage. Et on s'engage aussi à la garder, cette bonne conscience. Quand on pêche, on rectifie. On demande pardon, Dieu nous pardonne et on est restauré. Et on reprend la course. D'accord ? Juste après, vous pourrez le lire, il parle des faux docteurs. Alors eux, ils nous enseignent toutes sortes de choses, ils mettent tout en, remettent tout en question. Et il finit par ça, mets-toi, toi. Verset 10 du chapitre 4. Nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Ce que Paul dit, c'est qu'il y a un combat. Il y a un travail, mais que tout doit se faire dans une soumission à Dieu. Souvenons-nous de ça, Dieu n'a pas besoin de notre moi, Dieu n'a pas besoin de nous, il a besoin de Jésus en nous. Il a besoin du Saint-Esprit, d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit, prêts à lui obéir. Et quand il dit « attends », prêt à attendre sans rien faire. Quand il dit « vas-y », prêt à y aller. C'est ça que Dieu veut. Dieu n'a pas besoin d'hommes et de femmes qui inventent toutes sortes de méthodes, parce qu'aucune méthode n'a jamais servi à convertir quelqu'un, à sauver quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui travaille les cœurs. Et c'est les gens qui doivent se convertir. Nous ne convertissons personne. Il n'y a pas longtemps, on me disait, oui, mais il y a tout plein de personnes qui prient pour cette personne que je veux voir sauver. Alors je croyais qu'elle allait être sauvée. Je dis, mais est-ce qu'on convertit quelqu'un par nos prières? Est-ce qu'on sauve quelqu'un par nos prières? Jamais. Par contre, nous avons le devoir de continuer, de persévérer dans la prière. Ne nous décourageons pas si nos yeux ne voient pas de progression et de changement. Faisons confiance au Seigneur. Il y a une promesse. Souvenons-nous. Chapitre 4 et verset 16, on la relit. C'est ça qui est important. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Et la promesse est là, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voilà la promesse. Si on veille sur notre âme, d'abord, si on prend soin de se donner une discipline dans l'intimité avec Dieu, si on fait simplement ce que Dieu nous a demandé et qu'on s'attache à ce que Dieu nous a demandé, il le dit à Timothée, attache-toi à ces choses que tu as reçues par prophétie. Veille sur ça, attache-toi à ça. Veille sur ton enseignement. Il lui dit rien d'autre, ne t'éparpille pas. Et c'est comme ça que tu te sauveras et que tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Jean 11, 48, si nous le laissons faire, tous iront à lui. C'est important. Une expérience de cette semaine. La semaine dernière, mon père, il va faire une réunion à l'annexe de Draguignan. Il rentre chez lui le soir vers 11h30 et il voit qu'il a oublié sa sacoche. J'ai laissé ma sacoche à Salerne. Il remonte, il va en voiture, il arrive sur place, plus de sacoche. Dedans, tous les papiers, téléphone, carte grise, carte d'identité, carte bancaire. Et comme papa a une très très grande mémoire et qu'il a confiance en lui, il a laissé le code avec la carte bancaire. Il retourne, rien. Il cherche dans le local, rien. Il cherche devant l'église, rien. Il
Il dit, aïe, 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 il y a tous les papiers. Il va chez une chrétienne. Vous n'aurez pas vu ma sacoche, tout ça, etc. Il frappe chez des chrétiens et tout. Il dit, voilà, je suis désolé de vous réveiller à cette heure-ci. Vous n'aurez pas vu ma sacoche. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Oh, on va appeler le responsable de l'église parce qu'il y avait le chéquier de l'église. Il y avait tout. Il dit, moi, appelez le trésorier pour qu'il fasse opposition. Trésorier qui ne répond pas. Lui, il n'avait plus de téléphone pour appeler. Il dit, bon, tant pis, je rentre à la maison. Il en parle à maman et maman, qui aime l'encourager, dit, tu t'imagines même pas, t'as laissé la carte avec le code, le chéquier, et lui qui se sent pour le poids, voyez, petit à petit, oh, il est là, oh, il dit, comment je vais faire, quelle catastrophe. Et puis alors, il se met au lit, il préfère pas se disputer avec maman, et puis, il dit, de toute façon, j'ai tort, j'ai rien à dire, hein. Alors il va, il se met au lit, et puis il arrive pas à dormir, quoi. Et il prie, il dit, Seigneur, aide-moi, dis s'il te plaît, fais un miracle, tout ça. Et puis, il se souvient des paroles, qu'il faut compter sur le Seigneur, confie-toi en Dieu, etc. Et confiance. Et puis, il est là, il essaie de trouver toutes les promesses de la Bible, vous voyez, pour se réconforter. Et puis, bon, il s'endort et le lendemain, ils vont à la banque, tout ça. Et puis ils vont pour arrêter, faire couper les cartes et les chéquiers. Et le banquier, il dit, ah ben tiens, il commence à parler de la crise, tout ça. Mon père qui voit l'heure, il dit, aïe, 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 il faut qu'il arrête, il faut qu'il bloque et tout. Puis il n'arrêtait pas de parler, vous voyez, comme les banquiers parlent. Et puis, au bout d'un moment, il dit, alors, qu'est-ce que vous voulez, au bout d'une demi-heure? Il dit, on voulait couper la carte parce que j'ai perdu ma carte. Ah, bon, on va peut-être appeler la mairie de Salerne. Alors, ils appellent la mairie. Puis à la mairie, ils lui disent, eh ben, on a, oui, une sacoche noire. Oh, vous avez retrouvé? Oui, oui, une sacoche noire. Monsieur, venez, il y a une sacoche noire, venez. La récupère. Ah, ben c'est bon, on n'annule pas la carte, tout ça. Il va chercher. Il voit sa sacoche vide. La personne a volé tous les papiers, la carte bleue, le chéquier, le téléphone, tout. Il est là, il dit, oi, 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 on n'a pas coupé la carte et tout. Alors, il redescend en vitesse. Quelqu'un avait trouvé la sacoche jetée plein d'eau, toute foutue, quoi. Pardon. Et il arrive à la banque. Et donc, il fait arrêter tout. Et puis, la personne, quand même, elle dit, mais vous avez eu de la chance quand même, vous avez eu de la chance, bon, même si vous n'avez pas retrouvé tout ça. Et il dit, oui, d'ailleurs, vous m'avez parlé de la crise, et commence à lui parler du Seigneur. Donc ils font arrêter la carte, tout ça. Et il parle du Seigneur. La personne commence à se sentir convaincue de péché. Il dit, oui, mais c'est vrai, j'ai besoin du Seigneur, tout ça. Il dit, mais est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, je crois. Mais est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous aimez Jésus qui a donné sa vie pour vous, etc. Puis il lui parle. Et la personne vraiment commence à être touché, etc. Et il lui dit, mais vous avez besoin du Seigneur? Il dit, ben je sais. Et il dit, est-ce que vous voulez une Bible? Ah oui, s'il vous plaît, amenez-moi une Bible. Tout ça. Il dit, vous savez pourquoi j'ai perdu ma carte? C'est pour vous. C'est pour vous. Alors, ben, c'est un bon, vous croyez? Moi, je crois qu'à Dieu, rien n'est impossible. Et d'ailleurs, Dieu peut retrouver cette carte. Dieu peut nous la rendre. Maintenant que je vous ai parlé, Dieu peut nous la rendre. Tout ça. Bon, ok, tout ça. Quelques minutes après, ou quelques heures après, un frère appelle, Gérard, viens à la maison, il y a ta carte, il y a tout. Ah, il rentre, il va vite à Salerne, le frère avait retrouvé. Il dit, comment ça se fait? Il dit, bien, un jeune homme, il a trouvé une sacoche. Et il vient voir, et il a trouvé sa sacoche, et donc il a trouvé carte bleue, code, chéquier, tout ça. Il s'est dit, je vais pouvoir faire plein d'achats. Et il a eu envie de partager cette bonne nouvelle avec un ami à lui. Alors il sonne le soir, tard, vers minuit et demi, et dit, regarde, à son copain, j'ai trouvé un téléphone, j'ai trouvé, regarde, des cartes bleues, des papiers, je vais pouvoir acheter des choses sur Internet, tout ça. Et le copain, il dit, tu l'as volé. Non, je t'assure, j'ai trouvé la sacoche. Bon. Et puis, le jeune homme, il dit, ah bon, mais fais voir, il ouvre le chéquier. Oh, mais c'est l'église à ma mère. Et puis alors le jeune homme, il dit, mais tu me donnes ça, c'est l'église à ma mère, t'as pas le droit, tu peux pas dépenser les sous, c'est les sous de l'église, tu peux pas et tout. Le jeune homme pas converti, hein, mais que j'ai eu à mon groupe de jeunes quand même, vous voyez. Mais et qui était là, il dit, tu l'as volé et tout. Il dit, non, mais tant pis, tu me le donnes, moi je sais à qui c'est. Oh. Alors il lui donne, et puis le jeune homme va vers son père et dit, voilà, c'est à ton pasteur sûrement, tout ça. Donc il l'appelle, seulement il manquait encore le téléphone. Le téléphone, il avait quand même gardé le jeune. Et donc mon père, content, il retrouve la carte bleue, il retrouve le chéquier, tout ça, tout récupéré, merci Seigneur. Et il manquait quand même le téléphone. Et il retourne à la banque, il parle, il donne la Bible, il parle, tout ça, etc. Et puis là, on me dit, oh là là, c'est merveilleux, c'est vrai, tout ça. Et puis il dit, mais il manque encore le téléphone. Il dit, mais là aussi, on fait confiance au Seigneur. Et puis, il attend tout ça. Deux jours après, le même homme le rappelle, Gérard, j'ai ton téléphone. Ah bon? J'arrive, il y va. Et puis il dit, voilà, ce soir, j'ai été boire un café
avec un collègue de travail, pour le travail. J'ai été boire un café. Et puis, j'ai regardé un jeune homme qui était en train de faire une transaction. Il vendait un portable. Et il dit, je connais ce portable. Et il allait voir. Il dit, ah, fais voir ton portable. Et il regarde, il fait, c'est la photo de mon pasteur. Tu l'as volé. Comme ça. Et il a récupéré le portable. Donc, tout a été récupéré. Vous voyez? Mais pourquoi? Parce que Dieu voulait sauver un homme. Moi, je crois que Dieu voulait en tout cas parler à un homme. Qu'il se sauve pas. Peu importe. Mais qui de nous, au milieu de nous, aurait accepté de voir ses papiers, son chéquier, sa carte bleue, son téléphone volé? On n'aurait pas voulu. On aurait dit, ça me va pas comme plan, Seigneur. Hein? Mais quand on laisse le Seigneur et qu'on lui fait confiance, agir, Dieu peut utiliser toutes sortes de plans. Il a besoin de quoi? D'hommes qui font des bons plans. Vous l'aurez prévu, ça? Moi, non. Mais Dieu, il le prévoit à des choses inouïes. Ce qu'il a besoin, c'est pas de nous, c'est du Seigneur en nous et de son Esprit Saint, de gens dociles, disponibles, qui sont prêts à écouter le Seigneur, quoi qu'il en coûte. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu invites les hommes, oui, à prier, tu invites les hommes à obéir simplement. Et je veux t'obéir. Je te demande pardon pour les défauts. Je te demande pardon pour mes faiblesses à moi. Apprends-moi à obéir. Apprends-moi à me soumettre. Et peut-être qu'un jour, Seigneur, tu me donneras de nouvelles choses. Tu m'enverras dans une nouvelle ville où je pourrai enfin apporter ta parole, Seigneur, parce que j'aurai appris à t'écouter pleinement. Fais-nous tous grandir. Fais grandir ton assemblée. J'ai parlé à l'église ce soir et je voudrais vraiment, et nous voulons, Seigneur, que l'église grandisse, que des âmes soient sauvées. Nous voulons comprendre, Seigneur, et je veux comprendre que tu n'as pas besoin que je planifie des choses, mais que je te laisse simplement le maître, être le maître et le roi dans ma vie. S'il te plaît, remplis ton assemblée du Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence, rentre dans nos cœurs et toute la place dans nos cœurs, sois libre dans nos cœurs de faire tout ce que tu as envie. Aide-nous à nous séparer de tous nos idoles, Seigneur, et que nous puissions être libres, aptes à te servir. Que ton nom soit béni pour ce que tu vas faire en réponse à cette prière, à nos prières, et surtout à ce message. Que personne, Seigneur, ne l'oublie, que personne ne passe du temps, Seigneur, sans faire son culte. Moi-même, apprends-moi à être plus sérieux dans toute ma famille, à diriger parfaitement ma famille pour pouvoir bien diriger l'Église. Oui, il y a des écoles par lesquelles je ne veux pas passer, mais par la foi, je crois que même si elles sont dures, tu vas m'y aider et tu vas me faire sortir victorieux et efficace pour toi. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.